nuage d'élai. Art, création, culture, promenade, rencontre, entretien.
C'est l'émission Nuage d'élai sur Jet FM, deuxième émission consacrée à Marie-Bénédicte Souquet, qui est chanteuse, soprano, et que vous avez peut-être pu voir dans le rôle de Laura au sein de l'opéra Louisa Miller de Giuseppe Verdi, qui était donnée il y a quelques jours à peine au Théâtre Gralin de Nantes, une coproduction d'Angers Nantes Opéra. On retrouvera Marie-Bénédicte Souquet sur la scène du Théâtre Gralin pour Angers Nantes Opéra très bientôt, dans les prochaines semaines, pour l'Élixir d'amour. Elle s'est prêtée au jeu d'une série d'entretiens baptisés Dans les oreilles de, qui, à travers différents invités de cette saison 2022-2023 d'Angers Nantes Opéra, acceptent de répondre à une série de questions autour de leurs souvenirs sonores et musicaux et de leur parcours de travail. Marie-Bénédicte s'était largement prêtée au jeu. On écoute donc dans cette deuxième émission le troisième et dernier épisode de la série de podcasts qui a été publiée sur le site Angers Nantes Opéra et que j'ai eu le plaisir de mener. Et puis, on ajoute pour cette émission un bonus, quelques propos coupés au montage, comme on dit, mais qui font sens, notamment dans ce compagnonnage avec Angers Nantes Opéra. Marie-Bénédicte Souquet, chanteuse soprano, deuxième émission consacrée à son travail.
Dans les oreilles de
Marie-Bénédicte Souquet.
Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra. En collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré.
Je peux pas dire que j'ai pu choisir des rôles en fonction de ce qu'il raconte. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Après, évidemment, on met forcément de soi dans chacun des rôles. C'est pas quelque chose que j'ai pu reproduire. En revanche, j'en suis aujourd'hui à un endroit dans ma carrière où j'ai envie d'être plus créatrice. Moi, j'ai été interprète pendant des années et j'adore ça, me fondre comme ça dans des projets. Et donc, en effet, avec le Chant d'Orphée, qui a été mon premier projet que je portais, j'ai commencé à vouloir, en effet, raconter des choses. C'est un projet qui est un spectacle pour enfants, mais qui traite vraiment de sujets profonds de la vie, qui est l'amour, la mort, le doute, la peur. Bref, c'est autour du mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, alors en effet, c'est pas hyper rigolo, mais enfin, ça traite de sujets qui nous parlent encore aujourd'hui, alors que c'est un mythe, que j'ai utilisé donc évidemment beaucoup de musique de Monteverdi, parce qu'il y a l'Orfeo de Monteverdi. Donc ça a beau avoir 400 ans, ça nous parle toujours. Et en effet, là, je suis au tout début, je viens de créer ma compagnie avec cette idée d'avoir enfin envie d'avoir ma propre parole par rapport à quel est mon rapport au monde et que j'ai envie de partager avec les enfants, parce que j'ai vraiment très très envie de faire des spectacles pour enfants. Pour le moment, je choisis vraiment les morceaux qui existent dans le répertoire. Parfois, je les fais arranger. En revanche, ça passe par une écriture de texte. Dans le Chant d'Orphée, c'est moi qui... Alors, c'était le mythe d'Orphée, hein, donc c'était bon. Enfin, c'était ma manière de raconter le mythe d'Orphée. Et là, je suis dans un projet d'un prochain texte où je commence à écrire et là, ça va être... En tout cas, ce seront mes mots à moi. En effet, ça va être plutôt par l'écriture. Moi, j'ai fait une école de musique baroque, j'adorais chanter de la musique baroque, mais il s'est trouvé que dans ma carrière, j'en ai pas fait tant que ça, très peu. Ça n'a pas été un choix, ça a été une histoire de rencontre et de... C'est comme ça, enfin, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça que ça s'est fait. Je ne crois pas qu'on décide tant que ça. Souvent, on me l'a demandé, hein, mais qu'est-ce que vous choisissez ? Non, mais sincèrement... je passe les auditions. Parce que, en fait, il y a des auditions qui vont être proposées. Tel projet existe. Moi, j'ai mon agent qui s'appelle Olivier Beau, qui c'est l'agence BLG. Avec Olivier, on travaille ensemble depuis le début. Je suis sortie du CNSM, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, c'est assez joli parce qu'en fait, ça fait longtemps. Presque 20 ans qu'on travaille ensemble, c'est quand même assez chouette comme partenariat. Et en effet, lui se dit « Ah, Marie-Bénédicte, je pense que ce rôle, ça va lui aller. Il me propose pour l'audition. » Voilà, ça se fait aussi comme ça. Je suis pas sûre, j'ai pas été maître de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est joué. Ce qui m'importe, moi, c'est d'être sur scène, c'est ça qui me plaît. Et parfois, d'être dans un second rôle... c'est une chose qu'on voit encore plus au théâtre, mais je trouve qu'à l'opéra ça fonctionne aussi. C'est marrant parce que c'est à la fois très confortable, parce qu'en fait on regarde l'autre et on a une place qui est toute trouvée. On peut complètement être libre parce qu'on a peut-être moins de difficultés vocales, et par contre on a un rôle scénique de servir l'autre, le rôle plus principal, et c'est assez agréable comme place, je trouve, en fait. Donc en effet, dans les deux cas, que ce soit Laura dans Louisa Miller que Janetta pour l'Élixir d'amour, c'est des personnages de paysannes, en fait, contadine, on dit en italien. Et c'est donc Laura, c'est vraiment l'amie de Louisa. On peut penser qu'elles ont le même âge, qu'elles ont un peu le même destin. Et pour moi, Laura, elle vit complètement par procuration ce que vit Louisa. Donc c'est hyper intéressant à jouer. Il se trouve que Louisa Miller donc, est une jeune femme qui est donc, on ne sait pas exactement son âge, mais on va dire qu'elle a 17-18 ans. Elle va bientôt se marier. L'opéra commence, c'est son anniversaire, donc il y a quelque chose d'extrêmement joyeux. Et au fond d'elle, elle est extrêmement joyeuse parce qu'elle est amoureuse. Donc l'histoire de Louisa Miller, c'est un petit peu un Roméo et Juliette, c'est-à-dire que cet amour absolument impossible... avec ce truc très tragique. L'opéra, c'est souvent tragique, hein. c'est comme ça. Donc ça commence, tout le monde est très très joyeux parce qu'elle est amoureuse, et en même temps, elle n'a pas le droit d'être amoureuse de cet homme-là. Donc en vrai, ça va être la dégringolade, une sorte d'énorme toboggan de drame et pardon de divulgacher, mais il se trouve que tout le monde meurt à la fin. Enfin, pas Laura, moi je ne meurs pas. Bien sûr, meurt de désespoir, désespoir d'amour. Ce que je trouve intéressant, justement, avec Louisa Miller, c'est que, bien sûr, ça ne traite pas de l'actualité d'aujourd'hui, puisque ça a été écrit au XIXe siècle. Hein. C'est un opéra de Verdi, sur une pièce de théâtre de Schiller. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses qui résonnent incroyablement. C'est-à-dire, elle explique à son père qu'elle est très amoureuse. Ben, son père, il est content qu'elle soit amoureuse, mais il est quand même inquiet, parce qu'il lui dit « Oui, mais cet homme-là, on ne sait pas qui c'est ». Parce qu'il faut savoir que Rodolfo, lui, est un comte, une personne bien née, mais en fait, il cache son identité à Louisa. Et parce que lui, il a envie d'être aimé pour ce qu'il est, pas parce que c'est un comte. Et de toute façon, elle, c'est une paysanne, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit d'épouser un comte. Donc en fait, ils tombent amoureux juste pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Et une des réflexions du père, au départ, c'est de dire « Bah oui, mais c'est un étranger, on ne sait pas d'où il vient. » Bon, bah ça, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais ça fait toujours partie des craintes. Genre, il n'est pas du village, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est un bon père, et en effet, il voit le plaisir de sa fille. Et puis surtout, il le voit, ce fameux jeune homme, et il finit par lui faire confiance. Et puis, il y a d'autres plein de petites réflexions, encore comme ça. Par exemple, Wurm, qui est donc lui, est une des personnes qui travaille pour le comte Walter... Le comte Walter, c'est le père de ce fameux Rodolfo, ce fameux jeune homme, est en secret amoureux de Louisa, et donc veut absolument déjouer ce mariage. Et de toute façon, le comte Walter a tout à fait prévu autre chose pour son fils. Il doit épouser une comtesse, et il ne s'agit pas du tout qu'il fasse ce qu'il veut. Et à un moment donné, il y a une réflexion incroyable, c'est que Wurm dit « De toute façon, moi, je vais épouser Louisa ». Et le père de Louisa dit « Bah oui, mais elle ne veut pas ». « Et alors, tu ne peux pas la forcer ?» Donc c'est quand même génial. Bah non. Donc voilà, c'est quand même aujourd'hui, on entend ça, bah oui, non. Et le père qui dit, bah non quand même. Donc c'est quand même un bon père. Ils n'étaient pas tous comme ça. Et c'est intéressant cet opéra, évidemment, parce que Rodolfo, lui, c'est un homme bien né, très sûr de son, quand même, de là d'où il vient. Louisa, elle comprend très très vite que ça ne va pas bien se passer pour elle. Hein. Rodolfo, non. Et en fait, il se croit encore plus fort que ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en effet, lui, il pense qu'il a tous les droits. Et bien, pas du tout. En fait, même lui, son père lui dit, non, mais... Enfin, voilà, même lui, il a des obligations, etc. C'est pour ça que ça finit si mal. C'est qu'au fond, ben, il supporte pas. Donc, en effet, il finit par boire du poison. Mais c'est intéressant, ces rapports-là, parce qu'on les a toujours, de gens qui sont nés dans une certaine société et qui sont persuadés, qui sont au-dessus des lois, et d'autres... parce qu'ils sont nés tout en bas de l'échelle, ils s'autorisent à peine à faire des études. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le cerveau. C'est au fond, est-ce qu'on s'y autorise ou pas ? Donc je trouve que finalement, bon, c'est un opéra du 19e siècle, mais ça peut tout à fait continuer à nous parler. Alors évidemment, il y a plein de manipulations, il y a quand même des rebondissements hein, dans Louisa Miller. Je laisse les spectateurs en profiter. Mais je trouve qu'on peut... je trouve ça avec l'opéra, c'est qu'au fond... ça parle toujours, même si c'était de la politique de l'époque, ça peut toujours résonner aujourd'hui.
Dite, qui è quella femmina? Fossi lo ador, mia moglie. Edor, il nostro vincolo, caro per te si scioglie. Questi che fu mio schiavo, e con lei sposar questi che fu mio schiavo si de con lei sposar
gli faccio l'amore da me s'erodare questi costumi barbari io vi farò
questo non può star.
Andate dunque al diavolo, andate dunque al diavolo, voi non sapete amar.
Ah no, ma ascolta, attendi, cos'è mi fai passar, cos'è mi fai passar, cos'è mi fai passar.
Adile un mega, se non può tanto stai cangiare.
Ah, sopra che c'è bello, passo sopra che c'è
bello. Ah, sopra che c'è bello, passo sopra che c'è bello.
Ding, 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 ding,
je crois que grâce à l'humour et grâce au ludique, on peut faire évoluer beaucoup de choses et faire passer beaucoup de choses. Donc, en effet, dans les extraits que j'ai choisis, notamment, il y a un Rossini. Parce que je trouve que Rossini, alors évidemment, c'est le bel canto. C'est ce beau chant. et à la fois, je pense que Rossini est un sacré farceur quand même. Hein. L'extrait que là j'ai choisi, c'est que des onomatopées. C'est que des cris, des onomatopées, où tout le monde, à la fin du premier acte de l'Italienne Alger, c'est comme si tout le monde vrillait. Et chaque personnage, hein, c'est un septuor, c'est assez rare, a son onomatopée. Et donc c'est traité comme des instruments, et c'est comme ça, très très instrumental. Et à la fois très drôle, c'est complètement fou, quoi. Très, très drôle. Alors évidemment, hein, dans la musique que j'écoute, il peut y avoir aussi des choses assez tristes, assez noires, notamment dans les chansons, des choses pas drôles. Il y a des airs d'opéra, ceux qui quand même me touchent le plus, c'est quand même ceux qui sont tristes et qui vont... Je parlais de Didon aîné, c'est quand même la mort de Didon. Bien sûr, ça me touche au cœur. Et ben voilà, je pense qu'on a tous les deux faces. Mais je pense qu'on transmet quand même beaucoup par la joie. Je pense que c'est quand même un des plus beaux vecteurs. Donc le chant lyrique, comme on chante aujourd'hui, c'est le bel canto. Et le bel canto a été, entre guillemets, inventé au XIXe siècle. Donc nous, quand on apprend à chanter comme ça. Il se trouve qu'on chante quand même du Mozart, on chante quand même des choses qui ont été écrites avant. Donc on ne sait pas vraiment comment chantaient les chanteurs avant. En revanche, on n'a pas vraiment le même rapport à la voix, justement quand on chante du Mozart, encore plus quand on chante de la musique baroque, type Monteverdi, ou quand on chante du Verdi ou du Bellini. Et je ne sais pas bien l'expliquer avec des mots, mais il y a une sorte de plaisir physique quand même avec Verdi, et je crois qu'on l'a aussi en tant qu'auditeur, qui n'est absolument pas la même que quand on écoute du Monteverdi, qui a un autre plaisir. C'est-à-dire que dans la musique baroque, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les danses. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un truc presque jouissif avec la danse, quand ça monte, quand on a envie de danser avec. Donc, c'est corporel. Mais avec Verdi, avec même Rossini, enfin, toutes ces vocalises, c'est aussi un plaisir corporel qui est tout à fait différent. Et parfois, j'ai l'impression que ça ne passe pas par le cerveau. C'est-à-dire que c'est presque de corps à corps, quand on entend comme ça des voix... Enfin, franchement, sur la distribution là, de Louisa Miller, il y a des voix absolument splendides. Et presque... on a à peine besoin de la traduction des mots, parce qu'en vrai, l'émotion, elle passe par le son, par les intervalles, par la mélodie choisie. Enfin, c'est... Moi qui adore le texte, là je me contredis. Là, à l'inverse, on a une émotion qui est toute organique, quoi, qui est toute corporelle. La voix, bien sûr, c'est un travail un petit peu comme un sportif. Il y a un vrai training à avoir, surtout quand on est en période de production. Mais elle a aussi besoin de se reposer. J'ai mis des années à comprendre que, en fait, c'était comme un sportif de haut niveau. J'étais pas d'accord avec cette idée au départ, parce que nous sommes des artistes, n'est-ce pas ? Bon, en fait, non, on est des artistes, mais on est surtout des artisans, enfin, on est les deux. Et en effet, la voix, elle a à la fois besoin de training, et je crois qu'on a besoin de beaucoup de douceur avec notre propre voix, c'est très important, parce que quand on va trop loin, on l'abîme, et on n'en a qu'une. Et à la fois, elle a besoin de repos. Donc typiquement, l'été, si pendant 3 semaines, 1 mois, je n'ai pas de production, ça ne me pose aucun problème de ne pas chanter pendant 1 mois. Alors quand on reprend, il faut y aller doucement quand même. Mais comme un sportif, en fait. Mais ça fait un bien fou. On a aussi besoin de repos. Et le repos fait partie du travail du chanteur. Le sommeil fait partie, j'ai presque envie de dire, du travail du chanteur. C'est essentiel. Je fais beaucoup de yoga. C'est une pratique qui me plaît beaucoup. J'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie. Mais le yoga a ça qui m'a apporté, c'est que non seulement c'est une pratique corporelle, hein, parfois ça peut même être très physique, mais c'est aussi une pratique sur le souffle, c'est presque spirituel. Donc en effet, tout ce qui est, parce qu'on parle de la voix, mais il y a aussi tout le trac à gérer. Et ça, le travail sur le souffle est essentiel. Parce que quand on a trop le tac, le souffle monte et on n'a plus d'air, on ne peut plus chanter. Donc en effet, de savoir absolument contrôler son souffle, contrôler sa respiration, c'est essentiel pour nous. Je crois qu'on a Alors là, je pense que je peux parler à peu près pour tous les chanteurs. On a une hygiène de vie qui est... On s'en rend même plus compte, en fait. Mes enfants, ils se moquent de moi avec ça. Parce qu'eux, ils le voient, ils sont là. Ah bah évidemment, ah, évidemment, elle va pas sortir sans son écharpe. Mais moi, je m'en rends même pas compte, en fait. Bien sûr que dès qu'il y a un courant d'air, je fais attention, que je sors jamais sans mon écharpe. C'est un peu la caricature, mais en fait c'est vrai. Enfin, et puis moi je fais attention à ce que je mange, mais je m'en rends pas compte en fait. Ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Alors, de fait, je ne suis pas fumeuse. Il y a des chanteurs qui fument. Enfin, je veux dire, c'est... après aussi on n'est pas tous égaux par rapport à la voix. Comme on n'est pas tous égaux pour n'importe quoi avec le corps. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. J'ai connu les variations Goldberg via le piano, donc j'ai entendu bien plus tard le clavecin. Est-ce que c'est pour ça que je préfère les versions piano? Je ne sais pas. Alors ça, c'est vraiment une musique qui m'a accompagnée très tôt, dès l'adolescence. Bach, qui est très difficile à chanter. J'ai chanté pas mal de Bach, mais alors là, ça fait vraiment partie des choses difficiles à chanter. Souvent, on nous dit, oui, le bel canto, le Verdi, tout ça, oui, c'est très dur à chanter. Mais Bach, comme toute la musique de Bach, est instrumentale. En tant que chanteur, c'est difficile d'avoir des parties qui sont vraiment instrumentales. Ça n'est pas tellement vocal, en fait. Mais voilà, c'est absolument sublime. Et aussi, lui aussi, il y a quelque chose qui est presque céleste et qui nous dépasse un peu. Voilà, la musique de Bach, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est une musique qui m'apaise énormément. C'est pas forcément la musique que j'ai envie de chanter tous les jours. C'est pas vers ça que je vais. Mais c'est une musique qui, oui, c'est ça, je trouve lumineuse et apaisante. Et par exemple, si je suis dans des lieux, par exemple, si je suis dans un train et qu'il y a trop de bruit, que j'arrive pas à me concentrer, que je peux pas lire parce qu'il y a trop de bruit, bam, variation Goldberg dans les oreilles, et là c'est bon, la terre peut s'écrouler, moi de toute façon j'écoute Bach. Enfin vraiment, alors tout va mieux tout d'un coup, donc c'est assez drôle.
Dans les oreilles de
Marie-Bénédicte Souquet.
Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra.
Un enregistrement réalisé le mercredi 1er mars à Nantes, au Théâtre Gralin, à l'occasion de la production de Louisa Miller, du 10 mars au 13 avril 2023. C'était le troisième et dernier épisode de la série Dans les oreilles de, consacré à Marie-Bénédicte Souquet, une production d'Angers Nantes Opéra. Voici, pour compléter cette émission Nuages d'Ailes et cette deuxième émission qui recense ces trois épisodes de podcast, quelques propos coupés au montage où l'on revient sur le compagnonnage avec Angers Nantes Opéra.
Je suis d'une famille où il n'y a pas de musicien professionnel du tout. En revanche, il y avait ce désir qu'on accède à la musique. Peut-être une idée un peu bourgeoise de l'éducation, où c'est important de faire du sport, de la musique, voilà. Mon père a toujours dit, un corps sain, donc comment c'est déjà mince, un esprit sain dans un corps sain. Très bien. Donc j'ai eu cette chance que, même s'ils ne connaissaient pas la musique, ça leur a pas fait particulièrement peur quand j'ai voulu faire ce métier. Tout le monde n'a pas cette chance. En revanche, je me suis trouvée moi-même confrontée très récemment à quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire, je souhaite créer des spectacles. Alors ça, créer un spectacle, ça allait très très bien. Mais là, je crée ma compagnie Eh bien, ça m'a pris quasiment 2 ans de réflexion dans ma tête pour assumer de créer ma compagnie. Donc, c'est assez drôle. Ça a été assez simple. Pas si simple de dire moi je suis chanteuse lyrique, bon, ça n'a pas quand même été très simple, mais enfin je savais que j'avais envie de faire de la musique. Après, assumer de vouloir être soliste, etc., c'était pas si simple, mais enfin j'ai pas eu l'impression que c'était si compliqué. Alors que là, assumer d'être entrepreneuse, de dire bah oui, moi je crée ma compagnie, oulala, et ça reste encore très compliqué. C'est un chemin que je suis en train de faire en ce moment, mais je le fais avec toutes mes peurs, mais je le fais. Donc en effet, mes parents m'ont permis de faire ce métier sans me dire « Ouh là là, mais enfin, c'est pas un métier ». Ça, je ne l'ai jamais entendu dans ma famille. Je l'ai entendu ailleurs, mais jamais dans ma famille. Mes enfants, alors oui, je leur partage mon enthousiasme, mais ils voient aussi que ce n'est pas si simple hein, d'être intermittent du spectacle au quotidien. mes enfants ne font pas de musique. C'est comme ça. Enfin, ils en ont fait, mais ils ont arrêté. Après, j'ai un fils aîné qui fait beaucoup de dessins et qui se dirige vers le dessin animé. Donc, je pense que lui-même sera intermittent du spectacle, sûrement. Donc là, il est étudiant encore. Donc, il y a quand même de la graine d'artiste là-dedans. Mais je sais, en fait, on ne sait pas toujours ce qu'on transmet et ce qu'on... Ça, on ne sait pas. Ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est mais choisissez ce qui vous plaît. En fait, c'est tellement important d'être dans un métier qu'on a envie de porter. C'est tellement terrible. Je trouve que le confinement nous a montré ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a été obligé de s'arrêter de travailler. Et beaucoup de gens ont fait un point sur leur vie, et notamment, moi, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Et c'est triste et c'est dur. Enfin, genre. C'est important voilà, de construire sa vie avec son métier. Enfin, moi, j'ai passé des années à essayer de dire si, c'est un métier. Voilà, c'est un métier, parce que je voulais un peu qu'on me prenne au sérieux. Mais ce n'est pas un métier, c'est ma vie. Enfin, voilà, c'est ma vie, je chante, c'est comme ça. Donc, en effet, transmettre, c'est important. Alors, moi, je ne donne pas du tout de cours de chant. Je n'ai pas transmis comme ça. En revanche, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de transmettre... D'abord, j'adore les enfants. J'ai envie de transmettre à la jeune génération ce que j'aime sur scène. Je pense que je vois le monde à travers la musique. Donc, j'ai envie de le partager comme ça. Mais aussi par les textes. Hein. Il n'y a pas que la... J'aime mélanger musique et texte parlé. Ça, pour moi, c'est hyper important.
Dans ton compagnonnage avec Angers Nantes Opéra, il y avait aussi tout ce programme « Ça va mieux en le chantant ouais. ». Donc on est dans la transmission justement, tu vas rencontrer des publics, partager ton savoir. Ça, c'est des choses qui enrichissent aussi.
Oui, j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour ces « Ça va mieux en le chantant », qui est une idée d'Alain Surance. Déjà, à l'Opéra de Rennes, il avait fait réviser vos classiques. Et parce que ce sont des concerts qui durent une heure, qui sont des concerts vraiment dévoués au public, à cette transmission de l'art lyrique est fait pour tous. Enfin, c'est pas du tout... Parce que moi, je suis assez fâchée hein, avec cette idée que c'est élitiste. Pour moi, c'est pas du tout élitiste, en fait. Je trouve qu'il y a des choses dans la vie qui le sont beaucoup plus. Je trouve que justement l'opéra, même par rapport à de la musique symphonique, hein, je trouve qu'il y a tellement de choses à voir, les décors, les instruments, l'histoire, le fait qu'on raconte une histoire, etc. Donc les Ça va mieux en le chantant, c'est des concerts où on est accompagné avec un piano, mais où on a des thèmes choisi par Alain, Alain Surance toujours, et avec ce thème, on choisit plein de répertoires différents pour illustrer ce thème. Et là, on explore. Là, on n'a pas de limite. On n'est pas que sur l'art lyrique, justement. Évidemment, quand même, on chante beaucoup d'opéra, mais aussi de la chanson, de plein de choses, et c'est surtout qu'on a envie de jouer. Et notamment avec le public. Ce sont des concerts participatifs où on les incite à chanter avec nous. Très souvent, ces concerts sont présentés par Alain avec pour expliquer des anecdotes. Enfin voilà, je crois que ces concerts, c'est avant tout de pouvoir venir, mais franchement, pour 4 euros, de pouvoir venir écouter un concert. Déjà, rien que de rentrer dans l'Opéra Gralin, c'est magnifique. Il faut venir le voir, il faut venir voir la salle. Et de passer une heure à entendre différentes voix. Parce que, par exemple, ça peut être... évidemment, là, les thèmes ne vont plus me revenir, mais ça peut être la forêt à l'opéra, comment c'est traité. Ça peut être la folie. Ça peut être fille ou garçon. Il y a plein de thèmes, en fait, comme ça, qui sont traités. Et puis, on prend ce thème et on essaye de chercher dans chaque opéra. Alors, pour nous, c'est un défi d'essayer de faire des programmes, c'est tout le génie d'Alain Assurance, d'essayer de faire des programmes très diversifiés avec un thème pour rendre partager notre joie de l'opéra, de rendre toute cette musique absolument accessible et surtout ludique, je crois.
Peut-être que là, ça fait une heure que tu es en train de fatiguer ta voix.
Alors cela dit, quand en effet même la voix parlée, ça s'apprend. Et non, là, j'ai pas fatigué ma voix au bout d'une heure. En plus, je suis une très bavarde, une grande bavarde devant l'Éternel, donc je peux parler des heures. Mais il se trouve que quand j'étais toute jeune, eh ben, je parlais pas bien. Et c'était, je parlais pas bien parce que, je parlais bien. J'avais du bon vocabulaire, mais je veux dire, je me fatiguais, par exemple, moi qui étais très bavarde. Si je faisais un trajet en voiture, au bout de 3 heures, j'avais plus de voix. Et c'était un sacré problème, puisque je commençais à devenir chanteuse. Et donc, il a fallu que je fasse tout un travail avec une orthophoniste de comment aussi on place sa voix parlée. Donc, en effet, là, j'essaye de poser ma voix et de ne pas être trop... moi qui suis très enthousiaste, de me calmer un petit peu, parce qu'en effet, c'est comme ça qu'on peut se fatiguer. Mais on en parlait tout à l'heure de comment on fait attention à sa voix. C'est sûr que quand je me retrouve en soirée, j'adore être en soirée avec des copains, évidemment. N'empêche que quand j'arrive dans un lieu qui est avec beaucoup de musique, qui est bruyant, où finalement c'est un peu sombre, donc on parle plus fort, parce qu'en vrai dans la vie on s'en rend pas compte, mais on lit sur les lèvres, on s'en est rendu compte avec les masques. Donc dans des endroits qui sont très bruyants, il faut qu'on parle plus fort pour être entendu. Et que si c'est un peu sombre, on voit pas trop bien les gens, pour peu qu'il y ait un peu de fumée, c'est vrai que ça peut me mettre un petit peu en stress. Et si je dois chanter le lendemain, je pars. Alors bon, si je chante pas le lendemain, je m'en fiche, mais en vrai, même moi, je m'auto-censure en mode non, faut pas que je reste. Des fois ça m'énerve. c'est quand même une vie de chanteuse, c'est aussi des sacrifices pour ça, c'est comme ça.
Vivement la retraite, alors.
Ah oui, alors la retraite, j'ai l'impression de ne pas du tout être concernée. Alors je suis tout à fait, j'écoute tout à fait les débats et ça m'intéresse énormément. Et j'entends tout à fait les revendications. Mais c'est vrai qu'en tant que musicien, c'est une place qui est différente pour nous. Parce que, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un métier, c'est ma vie. Alors malheureusement, je suis chanteuse et la voix... je pense pas qu'à 65 ans, je serai encore capable de chanter. Je ne sais pas. Ça, l'avenir me le dira. Alors après, il faut quand même beaucoup d'énergie pour être sur scène. C'est quand même pas... Alors, il y a d'autres manières. On peut faire des spectacles plus tranquilles. Mais c'est quand même un métier très physique. On est debout et allez, on se met à genoux, on se remet, on monte sur une table, machin. Bon, et on chante corporellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais du yoga, c'est qu'en fait, il faut rester très en forme. J'aime beaucoup aller nager aussi. C'est une pratique que j'ai beaucoup. Ça ne se voit pas du tout à ma carrure, mais il se trouve que j'aime beaucoup nager. On a aussi besoin d'une pratique corporelle. Bon, donc voilà, donc vivement la retraite, je crois pas. Je crois quand même que... je ne sais pas. C'est vraiment le vrai questionnement. Je ne sais pas. Alors, j'aime bien, j'ai aussi un jardin et j'aime beaucoup jardiner. Donc, j'aime bien regarder les fleurs qui poussent. Donc, je ne sais pas ce que je ferai quand je serai plus âgée. On verra.
Quelques décennies devant toi.
C'est ça, on verra bien. À peine, mais on dit pas son âge à la radio.
Il y a longtemps, très longtemps, vivait Orphée. La voix d'Eurydice, c'est moi, le son de tes larmes, c'est moi. Je suis la musique, Orphée. Orphée prend un radeau. Et serrant sa lyre d'or un peu plus fort contre lui, il embarque sur ce fleuve étrange et menacé. Alors il pose un pied sur le sol et prend le chemin des enfers. Au-delà des grognements, au-delà de la porte des enfers, au-delà de la mort.
Marie-Bénédicte Souquet, chanteuse soprano, invitée de cette émission Nuages d'Ailes, par le biais des quelques épisodes de la série Dans les oreilles de, proposée par Angers Nantes Opéra avec le partenariat de Jet FM. Et ici quelques propos rajoutés, coupés au montage, pour cette émission Nuages d'Ailes. Marie-Bénédicte Souquet, on la retrouve dans L'Élixir d'amour très bientôt sur la scène du Théâtre Gralin via Angers Nantes Opéra. Et puis dans d'autres propositions musicales et chantées très bientôt aussi, espérons-le. Cette émission se referme dans un instant, c'est Florilège sur Jet FM. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, peu ou prou à la même heure, un peu après 18h, après le Somnolab.